Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui résume et analyse les shows bleus, rouges et jaunes de la WWE. Aujourd'hui, nous allons analyser le NXT TakeOver de Chicago et pour ça, je suis accompagné des experts avec l'ami Ringside. Salut Ringside.
Salut.
Ok, il a incognito, hein, si vous êtes sur la vidéo YouTube, vous ne le reconnaîtrez pas, mais c'est celui qui est au milieu. tout droit revenu du Japon, il a sûrement des tonnes d'anecdotes à nous partager sur ce qui se passe au pays du soleil levant, c'est l'amiral. Salut amiral.
Salut tout le monde. Anecdote que je ne partagerai pas, car on a autre chose à discuter, mais... J'en ai plein, oui.
Ouais, c'est toujours sympa. J'ai tellement d'anecdotes que je ne veux pas partager avec vous.
Non. Alors... J'ai des trucs à vous dire, mais il faudra regarder Two of Five Live pour que vous le sachiez.
Alors, pour la fine équipe qui va m'accompagner pour disséquer cet incroyable takeover à Chicago. Puisqu'au menu, nous avions 5 matchs et nous allons commencer avec Roderick Strong qui affrontait Eric Young, le leader d'Insanity, dans un match sans enjeu, si ce n'est donner une bonne correction au vilain Eric Young. Roderick Strong qui est devenu récemment papa, visiblement, on a une petite promotion, hein, voilà, ça lui a ouvert un nouveau regard qu'il porte sur le catch. Un homme nouveau. Mais toujours aussi souriant. Donc Insanity qui débarque sans Nikki Cross, pardon, qui elle aura un match un peu plus tard. On attend Roderick Strong qui débarque du public. Il est ensuite à capuche. Hein, il les prend par surprise. Il tabasse le clan au complet. Le match débute un peu dans la panique. Strong qui capitalise du coup sur l'effet de surprise, hein. Il enchaîne les chops, les drop kicks. Eric Young lui tente de contrer, mais Strong enchaîne. Il faudra la double intervention des sbires pour permettre à leur leader de reprendre le dessus, littéralement, hein, puisqu'il pend à un moment donné son adversaire là, dans une prise du dragon dormant assez impressionnante, là où en fait il le prend par le cou et il le pend en fait. C'est assez, assez étrange, assez visuellement assez dérangeant. Ne faites pas ça chez vous, évidemment. La foule encourage, hein, le babyface qui flanche mais ne rompt pas. Wolf et Dane, hein, les sbires d'Insanity, doivent à nouveau parasiter le combat pour que Young en profite. Mais Strong, hein, le pulvérise, l'ancien champion de la TNA, d'un coup de genou, l'expulsant hors du ring sur ses sbires. Il place alors son finisher. 1, 2, 3, victoire de Roderick Strong qui repart souriant, fatigué mais ravi, et première défaite de Eric Young à la WWE. Ringside, qu'as-tu pensé de cet opener?
C'est la première défaite de ce bon vieux Eric Young.
Écoute, alors non, effectivement, sous l'égide de son clan Insanity, parce qu'effectivement, il avait eu un title shot face à Samoa Joe, je crois,
première
apparition. Mmh.
Ouais, avant qu'il ait Sanity, ouais. Ah bah tu vois, comme quoi, j'avais pas calé qu'il était invaincu.
En l'occurrence, non, puisque je viens de révéler qu'en fait, il avait déjà perdu. Ouais, il est invaincu ça, depuis sa dernière défaite, c'est ce que je voulais dire.
ouais, non, c'était un bon opener. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu long, le match, pour ce qu'il y avait à raconter. Je suis pas très intéressé par Eric Young, c'est un bon worker, tout ça, mais il m'intéresse pas plus que ça, avoir évolué dans le ring. Sanity, c'est pareil, ça m'intéresse moyennement. Mais la foule était derrière carrément Roderick Strong, il était populaire, je pense que ça aurait été peut-être l'occasion de lui faire faire un match où il aurait été dominant de bout en bout et il aurait mis la raclée à Sanity, avant de le propulser dans une quête au main event. Mais sinon c'était propre, les deux c'est des très bons catcheurs. Roderick Strong il est quand même excellent. C'est plutôt un bon opener. Après clairement je suis pas très hypé par Sanity, mais j'ai l'impression qu'ils vont être là pour un moment et qu'on va s'en farcir un moment. Mais
Paraît-il que c'est le projet de Monsieur H.
C'est ça. Donc voilà, je pense qu'eux, on va aller voir pour un bon moment. Je suis assez content qu'ils aient perdu, que Roderick Strong ait gagné dans un match propre. Un petit peu long, voilà. C'est tout ce que j'ai. C'est le bémol que j'ai à mettre sur ce match.
Bon, alors, l'amiral, est-ce que tu as trouvé ça aussi long qu'un aller simple Tokyo-Paris?
Non, beaucoup moins long. Moi, j'ai bien aimé le match. J'ai pas trouvé ça long. Ça a commencé sur le chapeau de roue. Roderick Strong était vraiment super vif, très impactant, très violent dans ses coups, dans ses courses. Il était très, très percutant, en fait. Et j'avais dit dans une ancienne analyse du dernier takeover, je crois, pour moi, il manquait deux choses à Roderick Strong pour le voir monter vers la top card NXT. C'était un personnage un peu plus enrichi et un gros match de référence en takeover. Et je crois que le match qu'on a vu là, c'était son match de référence. Comme tu l'as dit, depuis qu'il y a Sanity, Rekiang, il n'a jamais perdu. Donc là, il était à 1 contre 1, mais il y avait quand même Dane et Wolf sur le côté. Donc Strong gagne contre Young avec les mêlées de Sanity, c'est quand même un gros exploit. Il n'a pas été dominant de bout en bout, comme tu disais, ringside, mais quand même, c'est le seul qui a gagné contre Sanity, en fait. Donc je pense que ça lui permet vraiment de gagner de l'ampleur. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce match en opener, c'était juste parfait, et j'espère que ça va permettre à ce que Strong se développe. Et il lui manque un peu plus de personnalité peut-être dans son gimmick pour vraiment devenir un catcheur qui compte à NXT. Donc je lui souhaite tout ce mal-là, on va dire.
Ouais, écoutez, moi je vous rejoins totalement. C'est vrai qu'il y a un petit déficit de charisme, enfin un petit peu de... C'est sûrement son personnage. Hein,
de personnalité,
de
ouais.
La personnalité de Roderick Strong qui souffre un peu de... C'est un reproche qu'on peut de temps en temps faire à certains... Certains indés qui débarquent à WWE et qui ont certes leur catch qui parle pour eux, mais après se construire un personnage, c'est pas l'exercice le plus facile. Là, il avait une tête de papa heureux, quoi, quand il a gagné. Donc ça marche.
Alors qu'on voit là, ceux qui voient la vidéo YouTube comprennent qu'il suffit d'un bonnet d'huile de soleil pour avoir une personnalité. Ringside, c'est il a tout, dit ouais. Ça aujourd'hui. Notre homme.
J'étais transparent avant. Moi, que rien là maintenant, je veux dire.
C'est un mec qui se met...
Ça dégage, quoi.
Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Ringside en privé si vous voulez des cours de promo. Voilà.
Ça,
vous aidera à construire un véritable personnage incarné.
En tout cas, c'était le festival du coup de genou dans la bouche. Hein. Roderick Strong, il a pas arrêté, il a découpé des mâchoires d'une façon bien violente. C'était vraiment pas mal.
De ses spécialités, hein, le coup de genou dans la face.
Alors, ouais. Des coups de genou dans la face, mais ailleurs également, on en a vu beaucoup dans le match suivant, puisque c'était un match de championnat, le premier match de championnat de la soirée pour le United Kingdom Championship. Et oui, on a droit donc à nos amis anglais qui viennent nous faire coucou à NXT, hein, une fois n'est pas coutume, mais là c'est vraiment lors du pay-per-view et ce n'est pas l'opener. Donc c'est Tyler Bate hein, qui est le champion au début du match hein, et il affronte Pete Dunne, hein, le mec juste quand tu le croises dans la rue, tu changes de trottoir, tu changes de quartier, tu changes de ville, il a une gueule pas possible, une vraie tête de hooligan. Alors Pete Dunne justement qui court tout de suite hein, sur le champion. Il le place, il le verrouille rapidement entre ses jambes, obligeant donc le petit moustachu à trouver la solution de l'énigme. C'était assez amusant cette séquence où il doit trouver comment sortir sa tête d'entre les jambes de son adversaire. Il y parvient, provoque son adversaire au passage. Grossière erreur hein, qui agace le vilain qui lui fait alors subir les pires tortures en lui tordant les doigts, notamment dans tous les sens. Je pensais pas qu'on pouvait tordre toutes ces parties hein, du corps comme ça. C'est assez original, en tout cas, à la WWE, on ne voit pas souvent ce genre de catch. Hein. Ça m'a fait penser notamment au catch qu'on fait entre potes avec le pouce, toi. On essaye de piéger son adversaire. Sauf que là, c'est pour un championnat. C'est un match de championnat. Donc Bates hein, est miraculeusement debout. Il place notamment un exploder pour reprendre le contrôle. Des running uppercut, un running shooting star et un bridging German pour le compte de deux. Ça va à 100 à l'heure, les enchaînements sont violents. Il retente, mais se fait choper par la brigade. Il file hein, pour reprendre aux affaires. Powerbomb sur Pete Dunne, tranquille, hein, là, rien de rien, malgré le petit gabarit. Airplane spin pardon, pour le compte de deux. Les deux hommes sont à terre. Tyler Bate donne tout ce qu'il a, mais Pete Dunne ne lâche rien. La foule, à ce moment-là, est en délire. Hein. Vraiment, le toit est prêt à exploser. Les deux hommes délivrent tout simplement un spectacle inédit. Hein,
Même le public chante UK, United Kingdom. Donc, pour que des Américains chantent le nom d'un autre pays, c'est que, ok,
c'est improbable. Ce qui se passe à ce moment-là, t'as raison, Amiral, est improbable. Hein, nos Américains à qui on fait appel à leur ressenti, aux relents racistes les plus bas dans le reste dans les autres émissions. Là, ça coquine avec les champions, les Anglais. Tyler Bate, hein, justement, qui tente un springboard high cross, mais se fait cueillir comme un bleu par une énorme droite de Pete Dunne, suivi d'une énorme sit-out powerbomb, grosse patate dans la tronche. On a une série énorme là où ils se mettent dans la gueule, là, franchement. C'est pas que j'avais jamais vu ça, mais en général, c'est dans un cadre illégal qu'on voit ce genre de choses. Et rapidement, les forces de l'ordre viennent coffrer tout le monde, cellule de dégrisement. Mais non, là, personne n'intervient. Énorme lariat pour le compte de deux de Bate. Hein. Double contre ensuite. Alors là, on a une séquence difficile à décrire, puisque les deux hommes vont se contrer. Ça va se finir par un tornado DDT. Juste incroyable, enfin, on n'en croit pas nos yeux. Pete Dunne ne veut pas perdre, il ne veut pas lâcher le morceau. Tyler Bate veut alors tenter une dernière prise. C'est une topée suicidaire peut-être à ce moment-là, je ne sais plus. Toujours est-il qu'il se fait contrer. Pete Dunne porte alors pour la deuxième fois de la soirée son finisher. Cette fois-ci, Tyler Bate ne s'en relèvera pas. 1, 2, 3, nouveau champion. Pete Dunne, donc, qui mord la ceinture à pleines dents. On a un champion avec une gueule pas possible. Amiral, est-ce que tu connaissais bien ces deux bonhommes? Et surtout, qu'as-tu pensé de ce match qui était juste incroyable?
Alors, je ne les connaissais pas avant le tournoi anglais de la WWE. J'ai eu l'occasion de les voir dans différents NXT, ils sont venus plusieurs fois, ils ont volé le show, la soirée, hein. C'était un match qui était juste tellement énorme en termes d'intensité, le public c'est vrai qu'a joué une bonne partie puisqu'ils étaient à fond du début à la fin, mais sans rien enlever de mérite aux deux catcheurs, ils ont délivré une performance qui était fabuleuse, hein. Les deux apparemment se connaissent depuis longue date, ils ont été amis, ils ont catché depuis longtemps et ils ont eu cette alchimie qu'on voit rarement où il faut des Sami Zayn et des Kevin Owens pour voir ce genre de truc. Là ils ont délivré ça avec ce petit côté ultra violent anglais-européen et technique aussi, hein, qui apporte une originalité. Moi je suis content du résultat que Dunne gagne, puisque ça veut dire qu'on aura un rematch. Voilà. J'étais pas forcément pour l'un ou pour l'autre, mais je suis content du résultat car ça assure qu'on va les revoir dans le ring. Est-ce qu'ils vont réussir à proposer quelque chose de différent et d'aussi bon que ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'était un match qui était super plaisant à voir et violent et technique et impressionnant avec la foule du public, quelques spots spectaculaires, des trucs originaux. Bref, chapeau les gars.
Et toi, alors, ringside, derrière tes sombres lunettes noires, est-ce que tu as vu quelque chose au moins de ce match?
Rien ne transparaît de mes sentiments. C'était un match exceptionnel. C'était du tout bon sur toute la ligne. Deux mecs qui, visiblement, effectivement, se connaissent par cœur. Y a de l'alchimie, il y a du rythme. Tout fonctionne comme ça doit fonctionner. Il y a rien à jeter. C'est impressionnant, c'est rapide, c'est percutant. Il y a une dramaturgie qui se noue pendant le match. Hein, ce face là qui va jusqu'au bout, ce gentil qui va se battre jusqu'au bout et ce méchant qui va connaître donc son adversaire par cœur et qui va tout faire en coup bas pour essayer d'avoir la victoire et qui va réussir à la décrocher. Le public était complètement dedans. Moi non plus, je ne les connaissais pas avant le tournoi UK, parce que bon, je suis pas trop la progress, parce qu'apparemment c'est surtout là-bas qui tourne. De très près, et les mecs qui ressortaient de la progress, c'était plutôt des gens comme Artis Curl ou Will Ospreay ou des choses comme ça. C'était vraiment, c'était pas le non plus les gros gros main eventers de la progress, j'ai l'impression. Et en quelques temps, en quelques mois, ils en ont fait des stars. Hein. La WWE, ça, ils ont vraiment bien optimisé quand ils ont fait le tournoi. notamment Pete Dunne, ils l'ont monté comme un monstre. Voilà, ça, du coup, là, ça paye encore une fois dans ce takeover où on a ce super babyface qui affronte sa némésis plutôt. Et du coup, là, on a le catch à son meilleur. Je pense qu'on a là un des meilleurs matchs de l'année. Hein. Il va se glisser tranquillement dans au moins les 5 premiers, je pense, hein, parce que c'était.
On verra, on est qu'en mai. Hein. On verra. Mais c'est vrai que moi j'ai été impressionné par Tyler Bate, même s'il a perdu. Ce gars, il vient d'avoir 20 ans à peine. Il a 20 ans, il a une forme physique assez exceptionnelle. Il n'est pas ultra impressionnant, mais il suffit de regarder ses jambes, ses cuisses pour voir qu'il a une espèce de puissance folle. Et j'ai adoré le moment où il prend Pete Dunne sur ses épaules et qu'il tourne. Un peu un swing de Cesaro, mais porté sur les épaules. Il tourne à une vitesse.
Juste il a mis le feu à la foule, hein, les gens.
Je ne sais pas comment il a fait.
Sur une toupie comme ça. Puis,
ouais.
On est passé dans le cadre du surhumain à un moment donné. Et du coup,
Puis pareil, il met un peu comme Cesaro, encore une fois, il met des European Uppercut en courant de l'autre bout du ring avec une vélocité incroyable aussi. C'était d'une violence. Ben voilà, les deux n'ont vraiment pas démérité. C'était assez incroyable. C'est un match que j'aurais aimé voir en live, en fait. Vu le
ouais,
show
carrément.
Qu'il y avait, ça aurait été, je suis sûr que ça aurait été, mais c'était un truc de fou, quoi.
Mais là, on sait que le catch anglais, il était hyper explosif, hyper actif là, ces dernières années. Ben là, on a une traduction en direct et on voit qu'ils sont loin de faire de la merde et qu'ils sont vraiment à très très haut niveau. Et voilà, ils ont montré, ils ont assuré, ils avaient une fenêtre de tir, quelque chose à présenter. Ben, et franchement, ils ont assuré comme des dieux, j'ai envie de dire.
Ah bah clairement c'est le genre de match qui met vraiment la lumière hein, sur toute une division ou en l'occurrence un show hein, donc ouais je vous rejoins totalement, moi j'ai la mâchoire décrochée du début jusqu'à la fin, j'adore leur gueule en plus, ils ont vraiment des gueules assez terribles, en particulier Pete Dunne là, c'est devenu mon chouchou instantanément hein, ça là-dessus avec sa grenouillère là en plus, enfin il est tellement un look improbable qu'il mord la ceinture à la fin en plus, il a tout, il y a le total package ce mec là et en plus vraiment ouais proposer vraiment j'ai vu des choses que j'avais jamais vues alors pourtant enfin je consacre un peu de mon temps quand même à regarder des choses qui se passent all over the world mais packagé à la sauce WWE avec le packaging, les promos et tout qu'il y a avant et enfin c'était super et effectivement pour moi ça volait le show comme tu l'as si bien dit Amiral. Alors on enchaîne avec un autre match de championnat, toutes les ceintures hein, ont été défendues ce soir, celle qui nous intéresse là c'est celle d'Atsuka hein, qui ne veut pas la lâcher sa ceinture hein, elle qui a battu le record d'invincibilité de l'ami Goldberg voilà il fallait bien que quelqu'un le fasse, c'est fait, c'est Atsuka, aucune prétendante n'arrive à la détrôner. Elles seront deux ce soir à tenter leur chance, Nikki Cross et Ruby Riott, puisque Ember Moon, elle, n'est pas là, elle est blessée. Nikki Cross, justement, qui saute tout de suite sur Ruby Riott, hein, la plus faible, mais elle finit par se prendre le cul d'Atsuka. Ruby Riott qui en profite alors pour aller malmener la championne. Ouais, elle a une bonne pop, hein, Ruby Riott, je sais pas trop si c'est une locale, mais ça marche plutôt bien. Ember Moon, je vous en parlais, on a une petite séquence où elle observe tout ça depuis les gradins. C'est au tour de Nikki Cross de malmener Ruby Riott. Atsuka, elle est de retour. Elle place un missile dropkick et un codebreaker. Powerbomb et ankle lock sur Ruby Riott. Mais elle ne top pas. Nikki Cross vient casser la prise. Elle distribue alors des claques, mais c'est Ruby Riott qui lui fait bouffer un Rana. Et elle balance un suicide dive à Atsuka. Big Senton sur Nikki Cross pour le compte de deux. Atsuka qui sauve la mise en plaçant une German sur Ruby. Elle se bouffe alors un neckbreaker. Elle lance le Senton, Ruby Riott. Mais elle se fait contrer naïvement en soumission par Atsuka qui l'attendait sagement en contrebas sur le ring. Intervention de Nikki Cross qui enchaîne avec un DDT inversé sur le bord du ring. Asuka, elle voit ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle plonge, hein, mais elle se fait prendre au piège. sous le tablier du ring par Nikki Cross, qui lui fait alors bouffer ses dents. Neckbreaker ensuite pour le tomber, mais ça ne passe pas. Ruby Riott vient casser la prise. C'est le choc des titans hein, quand les deux se percutent de plein fouet. Riott qui prend l'ascendant sur son adversaire, mais Atsuka, la championne, revient de l'ombre et claque son sliding kick. Les deux femmes sont à terre. Double tombée, hein, elle fait le tomber sur les deux corps allongés. La championne, donc, retains. 1, 2, 3, c'est bon pour Atsuka qui fera tomber la déesse japonaise. Ringside, tu es allé chercher la réponse à la question visiblement dans ton frigo. Peux-tu nous l'apporter, s'il te plaît ? Ringside, est-ce que tu nous as entendu ? Ton son est coupé, visiblement, Ringside.
Voilà, voilà. Excusez-moi. J'avais coupé mon son. j'étais bouche bée devant toute cette action qui allait à 100 à l'heure. Qui pour faire tomber Asuka ? Quelle championne ? Voilà, elle domine encore une fois la partie. Bonne prestation hein, des deux petites nouvelles. Là. Nikki Cross dans le côté furibond. Elle n'a pas montré grand-chose de spécial, mais elle tient son personnage. Elle était là pour faire ce qu'il fallait faire, avec des petits coups en traite, des petits trucs, machin. Mais je pense que c'est plus une cascadeuse qu'autre chose. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'elle est très, très technique. Ruby Riott, effectivement, assez populaire, là, qui traîne une bonne réputation. Elle a fait le job aussi. Elle a l'air d'être un peu plus technique, mais je pense que c'est quand même, encore une fois, Asuka qui dominait le truc. Le match était plutôt moi je me suis pas ennuyé, c'était plutôt bien foutu, chacun dans sa petite partition. Le final il était un petit peu précipité, mais c'est plutôt
j'avoue
cohérent.
J'ai eu besoin du ralenti là pour comprendre ce qui s'était passé.
Ouais, bon coup de genou dans la frate ça, puis,
oui je voilà,
voilà
après le ralenti j'ai été convaincu.
Voilà, puis la championne qui couvre les deux en même temps, ça fait sens, hein, quelque part. En attendant les choses sérieuses avec le retour d'Ember Moon, qui était là du haut des gradins à regarder la scène. C'est quand même mieux que les deux Australiennes qu'on s'était tapées avant. Et puis, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, Billy Kay, je crois, ou Liv Morgan, là, celle du New Jersey, là, qui sont quand même. Ça va pas très très loin. Là, elles ont un peu plus de talent, les deux autres. Même si on va attendre encore quelque chose d'un peu plus sérieux, en particulier le retour d'Ember Moon. Mais voilà, Ember Moon a été blessé, donc on a eu ça à la place. C'était très, très, très satisfaisant pour moi.
Ouais, alors, c'est Amiral, toi, l'expert du Japon. Qu'as-tu pensé que penses-tu de notre championne japonaise ? Est-ce qu'il serait temps qu'elle tombe et contre qui ? Et surtout, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux prétendantes ?
Alors sur Asuka, moi j'aime beaucoup hein, son personnage, la catcheuse en elle-même est vraiment excellente et donne quelque chose de très différent des autres, je trouve, de la WWE au hein, niveau des catcheuses. C'était pas son meilleur match, de toute façon un triple threat c'est toujours un peu compliqué à gérer, surtout qu'il a été monté alors que ça devait être un fatal four way, mais blessure d'Ember Moon, du coup on réorganise un peu tout. Je pense que si Ember Moon n'avait pas été blessé, c'est le moment où Asuka aurait perdu la ceinture. Je pense qu'il capitalise sur le fait qu'elle ne peut pas la perdre contre qui que ce soit actuellement NXT à part Ember Moon. Donc j'aime bien le fait qu'à la fin elle fasse tomber sur les deux en même temps, ça montre vraiment qu'elle est écrasante. Il n'y a bien qu'Ember Moon qui lui a mis en péril, puisque la dernière fois elle a dû tricher un peu à ce cas pour pouvoir gagner contre Ember Moon. Donc il n'y a vraiment qu'elle qui peut lui faire de l'ombre. Donc voilà, la prestation des deux autres était pas mal. Maintenant j'ai regretté que c'était un peu trop classique. C'était un triple threat assez convenu finalement, avec à chaque fois une qui est en dehors du ring, qui est KO pendant 2 minutes, et deux autres qui se battent, etc. Pas de spot extrêmement spectaculaire. Bref, un show qui était sympa, qui délivrait ce qu'on peut s'attendre d'un match comme ça, mais qui souffrait de venir juste après le match énorme qu'on a eu des Anglais. Et du coup, ça faisait un peu pas le figure, hein, je trouvais. Donc voilà. Sympa, mais sans plus.
Ouais, c'est vrai que je rejoins, effectivement, c'était deux bonnes prétendantes. On a vraiment eu un... Enfin, elles ont délivré ce qu'il fallait, c'est-à-dire... effectivement rebondir sur cette blessure de l'unique véritable prétendante pour sans pour autant que cette victoire d'Atsuka paraisse trop facile ou simple. Voilà, c'était une très bonne configuration là, cette triple menace. Et moi, je suis vraiment fan de Nikki Cross. Effectivement, en termes de catch, on voit pas grand-chose. C'est pas flamboyant. C'est un peu, je sais pas si on pourrait dire du Dean Ambrose, mais voilà, ça part un peu dans tous les sens et voilà.
Ouais. Il y a un peu de ça.
Mais c'est surtout la gueule qu'elle tire. À un moment donné, elle parvient à faire passer Atsuka par-dessus la corde et qui elle donc se retrouve à l'extérieur. C'est plutôt un début de match. Et elle a un sourire genre oh, c'est moi qui ai fait ça. Elle est contente d'elle, à moitié surprise. Il y a vraiment un personnage qui est super intéressant. Donc moi c'est tout ça, c'est surtout ça que je retiendrai. Et ben messieurs, puisqu'on a terminé avec les femmes, nous allons passer aux hommes. Et oui, car ce n'est pas notre main event ce soir. Non. Bobby Roode ne défendra pas son titre face à Hideo Itami dans le dernier match. Cela sera réservé à une autre division. Toujours est-il que Bobby Roode a droit, comme d'habitude, à une petite entrée sur mesure, un peu moins flamboyante que par le passé, mais tout aussi sympathique.
Et longue.
Et le public...
4 minutes 25, il a mis pour arriver au ring.
On a une petite séquence piano, ça m'a fait penser à Rock Band, tu sais, où tu dis...
Ouais, oui, c'est ça. Et...
De quoi relancer les ventes voilà, pour ce jeu vidéo en perte de vitesse.
D'ailleurs, il y a une version de piano de Rock Band que j'ai vu au Japon en bande arcade, où tu joues au piano, mais version Rock Band en fait. Mais
ah,
au
oui,
piano.
Oui. Ah bah, il y avait une édition, c'était le 3 ou le 4, je crois, le 3, où tu avais le piano. Donc pourquoi ouais. pas une Bobby Roode, une Glorious Edition. Ça serait pas mal. Hein. Du coup, pour reprendre mon résumé, donc, alors, Roode qui malmène Itami. Alors, Itami, je vous le rappelle, on nous le rappelle, la WWE nous le rappelle en long, en large et en travers, blessé par deux fois, qui a du mal à revenir. Visiblement, il est maudit, Itami. Il affiche notamment une énorme cicatrice à l'épaule. Il s'est un petit peu... Il n'a pas retrouvé la forme qu'il avait auparavant. Il a un petit peu de grain, Itami. Surtout, il a l'air triste, il a l'air abattu. Et ça va d'ailleurs construire une partie de ce match où il va devoir retrouver justement le feu sacré. Mais c'est Bobby Roode qui malmène Itami en début de rencontre. Lui, Itami, qu'est-ce qu'il fait? Et ben, il tease à plusieurs fois le JTS, évidemment, cette fameuse prise, ce fameux finisher dont il est l'auteur, et reprise par quelqu'un qu'on ne nommera pas, mais voilà, qui est mimé par Ringside sur YouTube. Elbow headlock sur Bobby Roode. Qui le balance ensuite dans le coin. Hideo Itami résiste, il déroule, il prend progressivement la confiance, et on voit au début, il est vraiment dans le doute, c'est difficile pour lui, mais progressivement il parvient. Je ne dirais pas que son visage s'éclaire, parce qu'il a vraiment l'air triste, mais suffisamment en confiance pour se moquer du champion. Et oui, il mime Bobby Roode, le fameux geste de Bobby Roode, le Glorious Move. Il se fait contrer, blockbuster de Bobby, qui enchaîne les coups, les brisages de nuque. Itami qui revient avec ses kicks, il place son Tornado Stunner, Top Rope Clothesline pour le compte de deux. Énième nouvelle tentative de JTS, ça ne passe pas. Itami enchaîne à nouveau les kicks dans l'épaule de son adversaire. Il travaille le bras, mais Bobby Roode ne se laisse pas faire. Ça se donne des grosses claques dans le coin du ring. Bobby Roode se rebiffe. Il manque son blockbuster Falcon Arrow. Falcon Arrow, de Itami qui touche, elle, pour le compte de deux. Itami retrouve son catch, ça balance des coups de pied toujours dans l'épaule. Bobby Roode, cette fois-ci, place son Spinebuster pour le compte de deux à son tour. Les deux s'échangent les tentatives de tomber. Roode tente de placer son DDT, mais ça ne passe pas puisque son bras est blessé. Le travail de sap du japonais a fait mouche. Il tente le JTS, Itami une fois de plus, mais Rhodes s'échappe. Pardon, le JTS finit par passer, mais Rhodes s'échappe du ring. Il place ensuite le Glorious DDT pour un near fall. Enfin, j'ai inversé les deux séquences, mais c'est pas grave. Itami fait un roll-up pour le compte de deux. Grosse séquence de coups de Itami qui fait tomber ensuite sa genouillère. On se dit alors que cette fois-ci, c'est bon, il va enfin placer son JTS victorieux. On y croit. Est-ce que Chicago y croit? On ne sait pas. Est-ce que CM Punk y croit devant son écran? Puisqu'on en est sûr, il regarde. Mais non, le JTS est contré en DDT. Bobby Roode ne veut pas prendre de risque. Il sent qu'il a un adversaire qui a repris la confiance. Il en place un second dans la foulée. Glorious DDT. 1, 2, 3, 17 minutes 50 secondes pour être exact. Et Bobby Roode a peut-être délivré un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée à NXT. C'est la question que je pose à l'amiral. Amiral, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort?
Difficile à dire.
Est-ce que tu as cru au JTS victorieux?
Non. Non. Non, j'y ai pas cru. J'ai pas cru. Je pense pas que, vu dans les termes dans lesquels sont quittés la WWE et CM Punk, ils auraient donné un JTS victorieux pour gagner un titre en plus à Chicago. Non. Je pense que ça, j'y ai pas cru à cause de ça. Et puis surtout, c'est que ça aurait été vraiment une victoire trop surprise. Itami vient de revenir après une deuxième blessure. Il y a encore du temps, il y a encore de la marge pour laisser à Bobby Roode le champ à son règne et à Itami de vraiment se réinstaller dans la division. Pour répondre à ta question, je sais pas si c'est le meilleur match de Bobby Roode. C'était un match qui était intéressant sur différents points. J'ai pas vu le combattre en fait, ces deux-là, et Itami a un peu ce sentiment de fraîcheur, même si ça fait longtemps qu'il est là parce qu'il a pas catché finalement si longtemps à NXT. Maintenant, c'est pas forcément le match, je pense, que j'ai préféré de Bobby Roode, hein, à NXT. Je pense simplement que son match contre Nakamura reste pour moi au-dessus, même s'il avait des critiques à faire. Je trouve que celui-ci n'a pas forcément apporté quelque chose de grandiosement plus à la table. Par contre, voilà, c'était un match qui était assez long, qui était avec pas mal de contres, de tentes entre les deux. Donc ouais, c'est un match qui était vraiment divertissant, mais je sais pas. Je trouve qu'il manquait un petit quelque chose pour que vraiment ça soit un très bon match. J'arrive pas à mettre le doigt dessus sur qu'est-ce que c'est. Peut-être que Ringside saura dire, mais il manque un petit truc.
Voilà, le mentaliste Ringside, le mentaliste derrière ses lunettes noires. Vous ne le voyez pas, mais lui, il vous voit, il sonde votre âme. A-t-il sondé l'âme de ce match?
Je vais pas pouvoir t'aider beaucoup, Amiral, parce que moi, il me manque rien dans ce match. J'ai vraiment adoré.
Voilà, ça fera 200 euros. pour l'analyse.
Clairement le ouais on va je te suis IRM, c'est-à-dire que je trouve que c'est le meilleur match de Bobby Roode effectivement du moins en pay-per-view, parce qu'il a fait aussi un joli match je crois contre Chris Hero il y a pas si longtemps, Cassius Ohno plutôt. J'ai pas aimé ses prestations avec Nakamura, mais bon, peut-être qu'on reparlera du booking de Nakamura quand on parlera de Backlash. Non, pour moi là, ce match ça avait une saveur spéciale parce que on avait l'affrontement entre le champion qui a eu le plus long règne à la TNA, Bobby Roode, et en face de lui l'ancien top guy de la NOAH, la fédération japonaise. Alors il y a trois grosses fédérations hein, au Japon, la New Japan Pro Wrestling, la All Japan Pro Wrestling et la NOAH. En ce moment, c'est la New Japan qui est vraiment le fer de lance, mais il n'y a pas si longtemps, c'était la NOAH qui était au top. Et quand la NOAH était au top, c'était Hideo Itami, c'était Kenta qui était la star. Et pas pour rien, hein, vous pouvez vous renseigner sur ces matchs. Il a fait des matchs qui sont exceptionnels. Si vous allez jeter un coup d'œil au top 200 qu'a fait le site Voxcatch, vous verrez qu'il y a une paire de matchs où
son nom apparaît plusieurs fois.
Kenta. Ouais, exactement. Il trust un peu le top. Bon, là, il a pas sorti un match 5 étoiles, mais il a fait du bon catch. Il y a eu du bon selling, il y a eu des bons moves, il y avait une belle histoire qui était racontée.
Ouais.
Du début à la fin. J'ai adoré le finish avec le double DDT de Bobby Roode. Donc, pour moi, c'était vraiment un très bon moment. Ça a répondu à mes attentes. Bon. Hideo Itami a été un petit peu catapulté dans la course au titre un peu rapidement, donc forcément il y avait un petit manque d'enjeu dans l'histoire, on ne croyait pas trop à ses chances, mais ce qui me gêne encore un petit peu plus, c'est le fait que Bobby Roode il gagne complètement clean dans cette histoire. C'était déjà le cas face à Nakamura. Donc on a Bobby Roode qui est le candidat idéal pour être le heel perfide fourbe qui triche à la manière d'un Ric Flair, et au final on a juste un mec super costaud qui arrive à contrer tout ce qu'on lui envoie et qui gagne toujours. Ouais. Je sais même pas s'il y a une fourchette dans les yeux ou un truc comme ça de tout le match.
Non mais donc, j'ai mis le doigt sur ce qui me manquait, ce qui me dérangeait dans ce match. En fait, c'était un truc que je trouve qui est assez, trop récurrent dans les matchs Bobby Roode, et notamment dans celui-ci. C'est donc sur la fin, donc Itami lui met son GTS et Bobby Roode tombe à l'extérieur du ring, et ce qui empêche Itami de faire le tomber et de remporter la victoire. Et ça, c'est une séquence qu'on a déjà vue dans d'autres matchs de Bobby Roode, où à mon nez, il se prend le finisher de son adversaire et il se met dans une position où on ne peut pas faire le tomber. Et je trouve que c'est peut-être là l'élément qui n'est pas vraiment heel, mais qui est un peu filou quelque part, et qui est toujours une redite de ce qu'on avait déjà vu. Je crois que contre Chris Hero, enfin Kessuno, il y a eu ça. Contre Nakamura, Mone, il y a ça, Sutton Kinshasa. Bref, il serait temps qu'il renouvelle un peu les séquences de finish chez Bobby Roode. J'ai l'impression que ça pas tourne en rond, mais qu'il y a un peu ça, quoi. Donc,
Bah, c'est le glorieux instinct. C'est le glorieux instinct qu'il a, qu'il se prend un finisher. Son corps se déplace de lui-même, son glorieux corps, évidemment, se déplace de lui-même à l'extérieur du ring.
C'est l'instinct du vétéran.
Ouais. Effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose à ringside. Effectivement, on a peut-être je sais pas si c'est une dissonance, mais en tout cas, une dissonance dans le sens où on n'a pas l'habitude de voir ce genre de personnage qu'on nous décrit gagner aussi proprement et vraiment avec un impact. Il n'a pas ou très peu de points faibles, et il n'a pas besoin de faire appel à la tricherie ou la filouterie pour gagner. Est-ce que finalement, pour l'instant, je dirais que c'est surtout l'histoire de ses adversaires qu'on a raconté plus que la sienne. Là, en l'occurrence, bah, c'était pour le départ de Nakamura. L'histoire était surtout portée sur Itami, où on a vraiment eu un Itami qui, au début du match, était dans le doute, triste, qui se cherchait, et qui finalement a fait peur au champion suffisamment pour qu'à la fin, il lui porte par deux fois, il prenne pas de risque, il porte par deux fois son finish. Donc, c'est vrai que là, on avait encore une histoire qui était plus focalisée sur le perdant que sur le champion. C'est vrai que je suis comme toi, enfin je suis comme vous, je suis impatient de voir un petit peu ce personnage plus malmené dans le ring, en tout cas, et qui soit peut-être un peu plus à l'image.
Franchement, le fait qu'il soit heel Bobby Roode et qu'il gagne sans tricher, sans faire de rang de coups bas, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que la WWE a un peu ce défaut, comme d'autres ligues de catch, ainsi dit. Mais qu'un champion heel doit forcément gagner par triche. Et je trouve dommage, parfois, ils ont un peu pourri des champions heel, genre du Kevin Owens, par exemple, ce qui me vient en tête. Ouais, le mec est suffisamment fort et suffisamment bon dans le ring pour gagner sans forcément faire un coup bas de triche. Donc ça, j'aime bien qu'il préserve le fait que, ok, c'est un connard, il est prêt à plein de choses, mais il n'en a pas forcément besoin parce qu'il est très fort. Et ça, je trouve que c'est pas gênant pour moi dans le personnage de Bobby Roode. Je pense plus qu'ils le font surfer sur la gimmick de, il a une theme song, une musique qui marche bien, il a son gimmick de je suis classe, mon NXT, c'est le NXT nouvelle génération, le NXT VIP, et il s'arrête là. Il manque peut-être une dimension encore au personnage pour en faire un truc excellent, mais il y a encore un peu de temps. Il est là depuis pas si longtemps que ça, Bobby Roode.
Justement, moi, je trouve ça bizarre qu'ils aient appliqué cette gimmick du méchant tricheur fourbe, pleutre à Kevin Owens, alors qu'au niveau in-ring, c'est sûrement un des meilleurs catcheurs au monde. Et à côté de ça, Bobby Roode, qui n'est pas quelqu'un d'exceptionnel, il a un catch old school assez basique. D'un seul coup, lui, c'est le plus balèze du roster. Moi, j'aurais inversé les deux, quoi. Mais,
ouais, mais quand tu regardes
après,
Bobby
bon,
Roode,
dans l'absolu, c'est sympa quand même.
Sur Maga Bobby Roode, tu mets à côté
ouais,
Triple
après, il y a le
H.
physique.
Hein, ils se ressemblent.
Ouais.
Ah bah, c'est les deux. Le même. Hein.
C'est vrai. C'est
donc,
vrai.
Du coup, je pense que Triple H fait non, toi, t'as ce qu'il faut pour gagner clean. Parce que tu me ressembles.
Ah bah ça, de toute façon, la
t'aimes bien ta
symétrie est
gueule.
Quasiment parfaite, d'autant plus que les
ouais.
deux se sont coupés les cheveux en même temps, je pense, ils ont au même salon de coiffure. Donc effectivement, bah voilà, qui sera celui qui fera tomber Bobby Roode? Pour l'instant, on a très peu d'indices, il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup de top babyface là en instance, peut-être suffisamment, peut-être même trop pour que Itami reste face, on verra. Toujours est-il que messieurs, nous enchaînons sur le véritable main event. C'était la surprise en ce qui me concerne, mais c'était à bon escient évidemment, puisque ce soir, les champions tag team, les auteurs de la douleur, affrontaient les fais-le par toi-même dans un match de l'échelle. Donc voilà une stipulation pour ce main event, pour voilà. Une énième tentative de Ciampa et Gargano de récupérer leurs biens. Donc évidemment, ça commence avec une baston générale au début, avec les Do It Yourself justement, qui envoient les deux gros Golgoth au sol. Tout de suite, hein, ils montent les échelles pour tenter d'aller décrocher la ceinture, mais les Authors of Pain reviennent et ils en ont rien à foutre des échelles. À plusieurs reprises dans le match, de toute façon, ils seront tombés. D'ailleurs, c'est assez marrant, ils en ont même un peu peur. Je crois que l'un des deux était victime de vertige. Je ne sais plus lequel, puisque je ne vais pas être... voilà, mais ils se ressemblent un peu tous, les Authors of Pain. Donc voilà, Do It Yourself se retrouve dans les barricades. Ciampa tente de monter à l'échelle, mais Gargano ensuite place une cannonball. Il se retrouve ensuite à tabasser les Authors of Pain qui reprennent l'avantage. Il retourne sur le ring. Gargano qui place un suicide dive à travers l'échelle sur les champions. Les Do It Yourself donc, qui récupèrent et utilisent les échelles comme armes. Ça travaille plutôt bien. Comment dire, un beau travail d'équipe. Mais les gros Golgoth reprennent le dessus. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils tentent de monter, mais c'est un petit peu compliqué. Il y en a un qui a peur de monter et l'autre qui est obligé de lui tenir l'échelle parce que bah ils pèsent leur quintal quand même, les deux bonhommes. Les deux Hitter Self les en empêchent. Ils grimpent également à l'échelle, mais ça ne passe pas. Ciampa semble blessé au genou. Voilà, on rentre à peu près dans une phase d'un peu de domination des Authors of Pain qui pulvérisent méthodiquement les Do It Yourself. Ils les balancent à travers l'échelle. Ils piègent Ciampa à plusieurs reprises dans le coin. Ils lui balancent l'échelle dans la tronche. Ils veulent monter, mais toujours pris de panique, hein, ils laissent tomber et décident plutôt de détruire, de continuer leur entreprise de destruction. Ils passent donc à tabac, ils chopent une échelle et décapitent Do It Yourself avec. On se retrouve avec plein d'échelles à ce moment-là sur le ring. Il y a des constructions, des ponts hein, qui sont faits. On sait que en général les échelles servent à construire des ponts. À ce moment-là, les deux Golgoth se retrouvent sur les deux échelles. Les deux Hit Yourself plongent sur les deux Golgoth. C'est le stéréo Splatches. Ils pulvérisent les Authors of Pain à travers les échelles. Tout le monde est à terre hein, à ce moment-là. Ciampa finit par remonter sur le ring. Il veut monter sur l'échelle, mais l'un des Authors of Pain, c'est Hakim hein, qui monte également.
Le fils du forgeron.
Ouais,
c'est Hakam.
Hakam. J'ai... Ouais, écoute, moi, c'est écrit Hakam, donc on va prononcer Hakam, puisque visiblement, Amir Alambar a déjà commencé à écrire la biographie officielle. Ensuite, on a une séquence assez marrante où Gargano grimpe par derrière pour monter également sur l'échelle. C'était assez marrant. Tout le monde se retrouve sur les échelles à se taper sur la tronche. On tombe peu à peu. C'est Gargano qui s'apprête à s'emparer du bien précieux, mais le manager Elring intervient pour l'en empêcher et il se bouffe un super kick dans la tronche. Voilà, un Hall of Famer qui se mange un super kick. Ça fait plaisir, il a plus de 60 balais. Donc autant vous dire qu'on ne le reverra plus vraiment jusqu'à la fin du show. Gargano se fait choper par Hakam. Ciampa se fait tabasser à son tour. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que ils veulent décapiter Ciampa avec l'échelle. Ciampa qui est offert, hein, à ce moment-là, il est à genoux. L'échelle est voilà, sous son menton, comme le mime l'amiral. Mais Gargano le sauveur, pousse son ami pour prendre la balle, hein, à la place de son partenaire. Il se fait mais décapiter d'une façon sauvage. Franchement, à ce moment-là, malgré le ralenti, hein, souvent quand on voit le ralenti, on voit un petit peu la façon dont le catcheur a absorbé le coup. Là, je pense que c'est l'échelle qui a absorbé Gargano. On ne le reverra pas tout de suite. Hein. À ce moment-là, j'en perds mon latin. Les auteurs Hoffman donc qui montent, mais Ciampa du coup qui n'a pas pris la balle, hein, sauvé par son copain, place une énorme German à travers l'échelle. C'est Hakam donc qui monte, mais Gargano est en vie. Il s'est pris une balle, mais il est là. Il tente de l'arrêter, mais c'est très difficile pour lui. Il se fait rapidement éjecter. Les deux Hit Yourself qui tente tant bien que mal en plaçant des super kicks sur la tête de Hakam qui est prise au milieu de l'échelle. On a des séquences assez violentes, hein. Là c'est un des deux Golgoth qui a la tête au milieu de l'échelle et des deux autres qui placent leur fameux super kick knee strike, la combo. Ciampa qui a mal au genou toujours, hein, c'est le sens de sacrifice, hein, toujours qui fait justement tout le sel de cette équipe, mais c'est difficile. À ce moment-là, les Authors of Pain reprennent l'avantage, ils placent leur power bomb, le super collider, hein, puisqu'ils prennent les deux victimes et les tabassent et les entrechoquent, pardon. Après les avoir après, en utilisant les échelles, puis il grimpe jusqu'au bout et attrape les fameuses ceintures qui étaient perchées là tout en haut. Les champions retains dans un match qui aura duré 20 minutes et ce n'est pas terminé. Malgré le logo qui s'affiche en bas à gauche, c'est une tromperie du réalisateur post-match. Les deux Hit Yourself donc qui tente tant bien que mal, hein, de retourner en dessous du Titantron. Et à ce moment-là, l'incroyable se produit. Ciampa s'en prend à Gargano. Et oui, il le passe à tabac méthodiquement. Il le balance notamment à travers tout le set, hein, qui est autour aux alentours du ring. Il carrément, enfin, il le met à mort. Il lui place un running knee strike dans la tronche. Il le détruit avec un deuxième. Il le place sur la table des commentateurs. Il place son Air Red Crash à travers la table. Il le regarde. Il admire le travail, hein, depuis la table des commentateurs. Alors que Gargano, tout du long, essayait de comprendre et il était là, mais pourquoi en l'agrippant son slip, le slip de la trahison. C'est comme ça que ça se termine, avec un Ciampa totalement dingue qui a trahi Gargano après tout ce qu'ils ont traversé. Amiral, comment as-tu vécu ce match et cette trahison? Dis-nous tout, dis-nous ce que tu as sur le cœur, la trahison du slip.
Le slip de trahison, pourquoi? Pourquoi j'aime pas? C'était génial. C'était génial, c'était génial le signe de trahison. Voyons. Non, le match était fou. La stipulation m'avait laissé un peu sceptique au début d'imaginer les Author of Pain dans un ladder match. Tu fais, c'est pas là où tu t'imagines que ça peut rendre un truc intéressant. Et pourtant, bah, ils ont prouvé que j'avais tort. Il y a vraiment eu des spots de fou. J'ai vraiment adoré quand DIY allait choper les titres et les deux monstres. Les récupères Powerbomb, Super Collider, c'était juste impeccable. Il y a eu des échelles brisées par Ciampa qui balance l'Auteur européen de travers. Même si on a vu avec le ralenti, c'était une échelle en bois. Hein. On a pu le voir, le ralenti, c'était du
Oui.
bois et pas du métal, comme on nous dit, mon Dieu.
Mince, ça doit tellement faire moins mal.
Ouais, c'est ça. Non, il y a eu vraiment des séquences, comme tu le décrivais, qui étaient juste folles. Donc le match en lui-même était extrêmement bon. Le résultat, ben, ok, implacable. DIY a tout donné. Ce que s'est mangé Johnny Gargano, c'était incroyable. L'échelle dans la gueule, c'était jamais vu ça. Donc voilà, les Auteurs européennes super victorieux. La fin du match, le public qui ovationne, standing ovation à DIY, qui se prennent dans les bras. Le logo, comme tu dis, qui apparaît. Un silence, il n'y a pas de musique dans l'arène. Donc ça ressent presque un adieu, un au revoir à
Ah bah ils
NXT,
ont
on se
ouais,
dit.
clairement joué là-dessus.
C'est ça, c'est OK, c'est un match, ils ont perdu. On les imagine peut-être monter après ce
Oui.
match-là. Raw, SmackDown, surtout qu'à Raw, bah, Revival qui venait d'NXT, bah, il y en a un qui est blessé. Donc il y a un spot libre pour une tag team. DIY sont les prochains sur liste, c'est évident. Moi, j'y ai vraiment cru. Et là, d'un coup, la trahison du slip. Vraiment, j'étais surpris. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Voilà, c'était out of nowhere. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on regarde le cash et pour être bluffé par un match qui est tenu truand et le finish, une trahison, un heel turn. Et en plus, Ciampa et Gargano s'étaient affrontés lors du tournoi de Cruiserweight. Ils avaient fait un match qui était exceptionnel aussi, l'un contre l'autre. Donc à l'époque, il n'y avait pas vraiment de rivalité entre eux, c'était juste parce que le tournoi le donnait. Donc là, maintenant, en mettant en plus ce facteur émotionnel de trahison, je pense que le match qui va suivre ça entre Ciampa et Gargano peut être vraiment exceptionnel. Après, on peut se dire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de briser l'équipe? Ça, c'est contestable, on pourra en discuter. Mais en tous les cas, c'était très bien fait au niveau du match, c'était bien raconté sur la trahison de Ciampa. Donc, chapeau. Encore une fois, là, c'était du très, très, très bon.
Alors, tu dis chapeau, est-ce que Ringside dit bonnet?
Bonnet, effectivement. La belle catch-up, non, c'était extraordinaire, c'était parfait de bout en bout. Alors, autant DIY que les Auteurs of Pain, qui décidément assurent quand il faut faire le spectacle, hein, même s'il y en a beaucoup qui les critiquent parce que c'est deux gros Golgoths.
Ah ouais.
Ben voilà, ils ont montré quand même qu'ils étaient capables d'être là au rendez-vous. Et là, je pense qu'ils ont marqué l'histoire. Ça va rester dans les mémoires, hein, ce match de ce soir. Ciampa, il a quand même catché avec une cheville en vrac. Hein, il s'est fait une entorse
Ouais.
quelques jours avant dans un house show.
Ouais.
Ça s'est pas vu 30 secondes. Hein. Et puis bah, c'était des spots de malade, c'était encore une fois de la dramaturgie, de la construction aux petits oignons là, et bah, c'était voilà, quand on aime le catch, bah, on aime bien ces trucs-là parce que il y avait tout qui fonctionnait. Gargano et c'est un mec, lui il va aller très très loin, je pense. Il transpire le catch dans tous les
Ouais.
sens, il catch à la perfection, timing de fou, il a un selling de malade. Là, quand il se mange l'échelle, c'est
Oh là
juste.
là.
On a peur pour lui. Ce U-turn a en plus qui réussit à fonctionner. La foule. Alors, 2 secondes avant, ils étaient fous d'amour pour les deux. Et 2 secondes après, fuck you,
Assaut.
Ciampa,
Ouais.
asshole. Voilà, vraiment de la haine qui transpire.
Ouais.
Voilà, là, hop, ça fonctionne. Bah, qu'est-ce que c'était? Voilà, c'était parfait. C'était le fin de show parfait, le match parfait, le U-turn parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On est juste satisfait, et puis et plus que ça, voilà, on est content d'être fan de catch quand c'est comme ça.
Ouais.
Vraiment, ouais, ça m'a fait penser un petit peu justement au Shield, la façon dont la trahison a été amenée. On nous a beaucoup teasé les différentes trahisons, hein, tout au long de la carrière, enfin de l'amitié qui a uni les deux à NXT. C'était toujours un peu en filigrane et ça s'était calmé enfin, suite avec leur prise de titre. Et puis ça arrive au moment où on s'y attend le moins en fait. Ça arrive au
On a
moment où on s'y
oublié,
attend
ouais.
le moins, on a
Ouais,
oublié.
exactement.
Et là en plus, vous avez raison, tout a été fait enfin, en termes de mise en scène, c'était incroyable. Et Gargano, enfin, son. Il comprenait pas, quoi. Vraiment, il comprenait pas. C'est incroyable. Et pourquoi enfin, il essayait de comprendre en même temps qu'il se faisait passer à tabac. C'était intense, hein, vraiment. Là, les deux nous ont proposé vraiment une trahison en termes visuels et de émotionnels assez forte, voire inédite, puisque vraiment ce heel là qui juste après avoir trahi comme ça, enfin, le faisait méthodiquement et en même temps il le tenait contre lui et il y avait comme une sorte encore pas d'amour mais presque au moment où pendant qu'il le trahissait en fait c'était assez fort hein, assez poignant donc
Ringside en pleurs.
ah oui c'est ça les
Non.
lunettes noires il savait qu'il allait pleurer il anticipait
C'est pas ce que
mais
vous
voilà et
croyez.
puis et ben cette trahison s'il fallait que ça se produise et ben tant mieux que ça se produise à NXT devant le public qui les a suivis et portés jusqu'au bout. Moi, je ne sais pas si on va les faire monter là maintenant. Pourquoi pas? Ce serait original de les faire
Non.
monter juste après la trahison. Ou alors si on va continuer à capitaliser sur eux à NXT, ce qui est aussi tout à fait probable. Et les deux m'intéresseraient à voir. Je serais pas contre une montée soudaine. Après, bon, voilà, l'histoire, il faut suivre. Hein. Pour les gens de Raw et SmackDown qui n'auront pas forcément tout le background, il faudrait des bonnes promos vidéo, mais ça, ils savent y faire. Toujours est-il que voilà ce pay-per-view c'est achevé de la manière la plus intense qui soit à la fois physiquement et émotionnellement. Eh bien messieurs justement, c'est l'heure du mot de la fin. Je vais vous demander donc votre top, ça va être dur. Votre flop, ça va être dur. Et votre note, ça va être facile. Amiral, eh ben je voilà. Est-ce que tu sais toujours les règles hein, c'est de 1 à 5 c'est
Oui,
bon?
c'est bon, j'ai pas
C'est bon.
oublié, c'est bon.
Alors ton top, ton flop et
Je
ta
sais
note s'il
compter en
te plaît.
japonais.
Je suis content.
Mon
Tu peux nous
top,
faire la note au japonais si tu veux.
ça marche. Mon top, c'est ouais, dur à choisir. Je vais rester sur la prestation des Anglais, le match UK, parce que c'est celui que j'attendais le moins finalement dans les deux, enfin les gros matchs de la soirée qui ont été vraiment superbes. Voilà, c'était génial. Moi, c'est pour ça que je regarde du catch, des matchs comme ça et le finish qu'il y a eu avec DIY, hein, c'était juste du velours. Mon flop. Le match féminin, encore une fois, c'est vraiment pour chipoter. Hein. C'est juste que je trouvais dommage, Asuka n'a pas autant brillé que ce qu'elle a pu donner juste avant. La configuration n'était pas idéale, il y a une blessure, etc. Donc ça manquait un peu d'une petite dimension percutante. Voilà. Mais c'est vraiment pour trouver un flop. Et ma note, je vais dire chi. Chi, ça veut dire 4
Ah
en
mais attends, c'est le
japonais.
truc
Donc.
maudit ça, faut pas le dire, non? Ça veut pas dire mort aussi, c'est ça?
Si, peut-être, mais c'est pas grave. Mais
Il
c'était en même temps, c'était un pay-per-view qui
vient de nous
tue, quoi.
lancer une malédiction sur le
Mais
podcast, c'est
non,
génial.
c'est un pay-per-view qui tue. Franchement,
Ah, ok.
il y avait pas de mauvais match. Il y avait deux gros matchs énormes qui comportaient ce que j'aime dans le catch. Donc voilà, un bon 4 bien solide.
Ringside. Alors,
Ça va,
est-ce que
je suis
tu
toujours.
chies également?
Je suis toujours vivant, tout va bien. Est-ce que je chie également?
C'est la note qu'a donnée l'amiral.
Non, non, pas du tout. Ce que je veux dire.
Ton flop.
Alors, le flop. Non, je vais commencer par le top. Le top, c'est Ciampa. Ciampa qui fait une. Voilà, parce qu'il était blessé et que bah, il a fait une performance exceptionnelle. Donc, je vais lui donner à lui. Et le flop. C'est le fait que pourquoi on n'a pas ça dans le roster principal. Au final, pourquoi c'est cantonné à NXT? Pourquoi c'est réservé au network, à la niche de fans? Je veux dire, la division tag team, elle est pas si flamboyante que ça dans le roster principal pour qu'on se, du coup, bah, on se prive d'un truc comme ça, là. Donc, voilà, ce sera ça mon flop. Pourquoi est-ce qu'on cantonne ça à NXT? NXT, c'est le centre de formation normalement, hein. C'est pas, d'accord, ils veulent que ce soit une brand, mais.
Ouais, mais justement, ouais, c'est plus vraiment une bande de
Non.
formation. C'est ce qu'a dit
Oui.
Triple H.
C'est ce que dit Triple H, mais si tu regardes la comptabilité, tu verras que c'est encore le centre de formation.
Oui, mais ça, il y a des transferts de numéros de compte. Enfin, ça, c'est pas
Ouais,
très
enfin, les
clair.
chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Et ma note, eh ben, moi, je ne mets pas 4, je mets 5, parce que c'était parfait, de bout en bout. Il faut bien mettre 5 un jour. Donc voilà, moi, je le mets à ce show-là, qui m'a transporté du début à la fin, qui était historique, et puis qui m'a bouleversé dans tous les sens du terme, là. Voilà, donc je
Ouais.
mets un bon 5, un bon gros 5.
Eh bien, écoute, moi, mon top, c'est l'échelle dans la tête de Gargano. Voilà. C'était.
Exceptionnel.
Voilà. Je crois qu'on n'a plus de nouvelles de l'échelle depuis. Elle est en rééducation, il me semble. Elle est partie en rééducation. Il y en a pour 6 mois, 6 mois d'absence pour l'échelle.
Trauma crânien.
Voilà. et mon flop, eh ben, c'est presque pareil que Ringside. Que moi, le flop, je le mets au week-end où il y a deux pay-per-view. C'est difficile pour catch-up. C'est plus
C'est
pour.
dur.
C'est dur, c'est dur. Et c'est d'autant plus dur que, pour l'instant, en tout cas, ce pay-per-view-là. Et t'es vraiment très très bon. Et ben, ma note, elle est entre le chi et le 5. C'est 4,5. Donc, chi virgule 5. Je donne chi virgule 5 à ce takeover Chicago. Il y aura manqué pas grand-chose. Hein. Tu rajoutes un peu de. Enfin, du storytelling un peu plus sur certains matchs et c'était banco, mais ouais, là c'est vraiment. Tu sens qu'on joue les difficiles quand tu donnes pas 5 à ce genre de pay-per-view. Ringside, lui, il fait pas le difficile, il balance.
Non, je suis un bon client, moi.
Bon, et ben merci messieurs. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez hein, nous suivre en audio sur iTunes, sur PodCloud, en vidéo sur YouTube pour voir nos tronches ou voir des lunettes qui cachent nos tronches. Catch Up CDC pour le Twitter, le Facebook, les cahiers du catch.com hein, pour les chroniques de nos plumes aiguisées, le forum qui est attenant. Commenter, partager, noter et pousser les épisodes sur les réseaux sociaux. On gagne à être connu, ça y a pas de souci. C'est ce qui se
Ce que ma
dit.
mère me dit tout le temps.
Ah oui, c'est ce qui se dit sur la croisette et à la maison au foyer familial de Ringside. Messieurs, je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, parce que faut qu'on s'organise pour les prochains débriefings. En tout cas, pour nos auditeurs, la prochaine fois qu'ils nous entendront, ce sera pour Backlash. La review de Backlash et la semaine prochaine c'est également enfin cette semaine après c'est Raw et SmackDown avec le retour de l'amiral qui va nous faire du bien à toutes et à tous et ben rendez-vous à la prochaine fois salut
ciao.
Je peux faire un cosplay de Giscal, je peux tenter. Oui, alors ce takeover était bien, mais ça manquait quand même de John Cena. Hein. Donc,
C'est le pire pay-per-view que j'ai jamais vu, du coup je vais mettre 3.
Ouais.